au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour. Pourquoi? Je vais le demander, Samuel Badel qui est là, exactement Serge Bredet et Isabelle Falardeau. Pourquoi quatre fois bonjour? Et je vous dis oui. Je vous dis, vous autres, hein? Non, ça, c'est la blague de cette émission. Jamais personne ne sait pourquoi. Il faut que je vous le dise parce que c'est quatre fois mieux qu'un seul qu'un bonjour. Seul,
ouais. Voilà, c'est ce que j'ai dit.
Oui, oui, c'est ça. Alors, ben, puisqu'on vous entend déjà, bon, bonjour Samuel.
Bonjour.
Ben oui, je pense que le système de musique a décidé de
jouer. Ouais, on a un petit problème de mon côté.
Bon, on va se croiser le doigt que ça fonctionne pour le reste de l'émission, mais ça arrive, des choses comme ça. Ben, puisque vous êtes là, tout le monde, allons-y. Serge Bredet, tu nous parles de quoi aujourd'hui à ta chronique?
Oui, cette expérience pour redécouvrir Montréal.
Oh, wow. Oui. Et toi, oui.
Et des petites brèves.
Probablement, oui. Et de ton côté, Isabelle?
Je vous parle d'articles pour améliorer notre boîte à lunch à la prochaine la rentrée.
Excellent. Moi, je vous parle. En fait, on reçoit Olivier Niquette aussi pour parler de son livre « Le savais-tu » sur le hockey. On va recevoir aussi Christian Tienchu qui va nous parler du festival d'humour africain Afrikiri. On a des nouvelles du Canada avec Jean Caillouette de Franco-Presse. Et oui, c'est vraiment chargé comme émission. Et on va parler du chant, les chants d'Asbiol. On reçoit le créateur André Papa-Thomas. Donc, ce 20 août 2025, d'abord, parlons de météo. Il y a un bulletin de cyclones tropicaux qui est en vigueur, notamment pour Terre-Neuve, dans la région de Saint-Jean, avec l'ouragan Erin, là, qui pourrait peut-être nous amener des choses là-bas. Et puis, il y a un avis de qualité de l'air, parce qu'il y a beaucoup de feux de forêt dans cette province. Il y a un avis de chaleur en Saskatchewan, encore eux autres ont ça, puis des avis de brouillard en Alberta. Donc, le temps au Québec sera majoritairement nuageux, avec des risques d'averses à plusieurs endroits. Montréal, c'est 23 degrés, maximum humidex 25. C'est un peu gérable. C'est, en fait, c'est très gérable comparativement à ce qu'on a vécu. Temps partiellement ensoleillé dans les provinces de Maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Les maximum autour de 22 degrés. Et comme je l'ai dit, donc, un avis de qualité de l'air à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et le maximum, oh là là, ça commence à refroidir là-bas, 11 degrés. En Ontario, on s'attend à un ciel variable avec des nuages et de la pluie. On va dans des maximums autour de 21 degrés à Toronto, humidex à 25. Et puis, c'est des averses pas mal partout. Manitoba, généralement ensoleillé. Là, on a un humidex à 37. Hein, ça y fait chaud. Un avis de chaleur pour Regina, en Saskatchewan. On va avoir un humidex qui pourrait atteindre 38. Et puis, allons-y en Alberta, vue de brouillard dans le nord et le centre. Des averses et des orages sont à prévoir. Maximum 24 à 25 degrés. Puis, on retourne à la normale. Devinez quoi, en Colombie-Britannique, c'est de la pluie. Fallait s'y attendre. L'éphéméride d'aujourd'hui, Charles Darwin, en 1858, présente sa théorie sur l'évolution par sélection naturelle. J'aime ça qu'on dise une théorie parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui démontre que ça marche, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui croient que tout s'est fait en 7 jours. On va laisser ça là. Donc, qui présente ça à la Linnean Society de Londres. C'est comme les gens qui pensent que la Terre est plate puis ils disent qu'ils sont des membres tout le tour de la planète. La NASA, en 1977, lance sa sonde spatiale Voyager 2, hein, qui va explorer les planètes extérieures du système solaire. Bien, imaginez-vous que c'est encore en activité. En 1998, la Cour suprême du Canada rend un jugement historique sur la sécession du Québec et conclut que le Québec n'a pas le droit de faire sa sécession unilatéralement. Il doit avoir une majorité claire et une question claire. Bon, alors, voilà. Puis, on va sauter un petit peu pour les dates, mais il y a un décès particulier aujourd'hui que j'aimerais souligner. Ben oui, en 1980, à l'âge de 41 ans, foudroyé par un infarctus, Joe Dassin nous quitte. Et je vous propose d'écouter ça.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
Et on écoutait donc Joe Dassin, les Champs-Élysées.
Alors voici une brève revue de presse préparée avec l'aide de l'intelligence artificielle parce qu'on est, je pense que par souci de transparence, on va vous le dire. Alors j'ai utilisé Gemini de Google pour m'aider à faire une revue de presse et à faire un petit résumé de tout ça. Alors en politique québécoise, un nouveau sondage léger fait pour le Journal de Montréal et TVA a été publié ce matin et confirme une progression pour le Parti québécois et le Parti libéral, tandis que la coalition Avenir Québec dégringole dans les intentions de vote. Selon les données du mois de juin, le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon demeure en tête avec 30% d'appui, malgré une baisse de 3 points. Le Parti libéral du Québec, avec Pablo Rodriguez à sa tête, réalise une poussée remarquable, gagnant 7 points pour atteindre 28%. Le Parti libéral se retrouve donc en deuxième position devant le parti de François Legault. La coalition Avenir Québec est en troisième place, avec seulement 17% des intentions de vote. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime récolte 14% des intentions de vote, tandis que Québec solidaire de Ruba Gazal obtient 9%. Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1056 personnes à une marge d'erreur de plus ou moins 3% 19 fois sur 20. Je vais te taper, toi, Serge. Je n'étais pas censé réagir quand je fais les nouvelles. Et on termine sur Air Canada. Donc, après trois jours de grève qui ont perturbé les voyages de milliers de passagers, Air Canada a annoncé qu'elle allait reprendre graduellement ses opérations dès ce matin. L'objectif est de retrouver une capacité de 50% des vols réguliers dès aujourd'hui. L'entreprise indique que la reprise sera progressive et que la priorité sera d'élargir rétablir l'intégrité du réseau pour assurer que les vols opérés permettent de bien positionner les équipages. Et puis ce qu'on a appris, donc, il y aurait une augmentation salariale de 20% sur 4 ans pour les agents de bord juniors et de 16% pour les seniors et que on met fin aux heures de travail non payées. On a une émission chargée, ça fait qu'on va aller vite pour ne pas perdre trop de temps pour entendre les propos savoureux d'Isabelle Falardeau. Salut Isabelle!
Bonjour!
Alors, on va parler, j'ai dit savoureux parce qu'on va parler de boîte à lunch aujourd'hui.
Exactement. Alors, c'est ça, c'est un article que j'ai trouvé dans la presse sous la plume d'Isabelle Morin. Le titre, si vous voulez trouver l'article, « 10 trouvailles pour rafraîchir sa boîte à lunch ». Et il y a plusieurs classiques, là, donc des sacs à collation réutilisables, des boîtes à lunch imperméables, des choses comme ça. J'ai vraiment découvert, par contre, des choses que je connaissais pas. Alors, je vais commencer par ça. Ce qui m'a vraiment intéressée, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous, le bloc réfrigérant en acier inoxydable. Donc, au lieu du fameux ice pack en plastique avec du liquide douteux à l'intérieur,
ouais.
Là, c'est un bloc en acier inoxydable qu'on met au congélateur, comme le ice pack. Et ensuite, on le met dans la boîte à lunch et ça peut garder frais jusqu'à 6 heures, les aliments.
Ah bon?
Ça va au lave-vaisselle.
Ouais.
Ça prend pas les odeurs du congélateur, ça change pas de couleur. On dit que c'est réutilisable à l'infini et ça coûte 13,99 $. Ça, c'est chez Ecoloco.
Ouais.
Je vous avertis, je vais m'en procurer un, c'est certain.
C'est certain.
Un ou plus. Une autre trouvaille que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est, vous savez, quand on apporte un lunch, que ce soit en pique-nique ou au travail ou peu importe, puis on oublie de mettre du sel ou du poivre dans notre lunch.
Ouais.
Bon, il y a des mini salières qui existent en plusieurs versions, mais là, c'est Ricardo qui fait des mini salières et poivrières, mais des moulins, donc on peut vraiment mettre des grains de poivre et faire... C'est tout petit, mais c'est mignon. Ça va dans la boîte à lunch, c'est 9,99 $ chacune. Et donc ça, vous pouvez trouver ça sur le site de Ricardo Cuisine. Ensuite de ça, un bol, un plat pour mettre vos fruits. Quand vous avez, vous lavez vos fruits, vous les mettez dans votre dans un contenant, puis là, ben ça baigne un peu dans l'eau, ça moisit plus vite. C'est vraiment ingénieux. C'est un plat pour conserver les aliments, mais avec une passoire amovible intégrée. Mmh. Donc, vous rincez vos petites fraises, vos petites framboises, vous les mettez dans la passoire dans le petit plat, le couvercle par-dessus, le tout est étanche. Évidemment, il faut le conserver à l'horizontale si vous voulez pas que l'eau revienne, mais c'est quand même assez ingénieux. Et c'est 13,99 $. Ça, c'est chez Eugène Allard. Ça, c'est une entreprise que je connaissais pas. Alors, ça m'a en même temps fait découvrir cette entreprise-là. Vous allez simplement là sur le site, c'est Eugène, E-U-G-E-N-E, alors ALLARD.com. Et là, vous allez avoir toute une gamme d'articles, mais entre autres, cet article-là. Aussi intéressant dans l'article, c'est les boîtes de jus réutilisables. Plutôt que d'acheter les petites boîtes de jus, là... avec les pailles qu'on insère. Voilà, c'est des boîtes refermables avec pailles intégrées en plastique. Et il y a deux formats, donc petit et grand. C'est 15,16 $ chacun. Ça, c'est chez Marifil. Ça aussi, je connaissais pas. C'est un site web sur lequel vous pouvez commander. Il y a vraiment toutes les couleurs là, sur la photo. C'est très joli. On a rouge, vert, orange, violet, bleu. Vous pouvez faire un arc-en-ciel avec
ça. Ah, ouais.
Oui. Donc ça aussi, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Puis après ça, il y a des classiques du lunch, comme les boîtes bento. Il y a, le sac réutilisable. Ça, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui ont essayé toutes sortes de trucs pour remplacer les sacs Ziploc pour fermer hermétiquement des petites collations.
Oui. Écoute, j'en ai reçu, moi, de Nespresso comme prime quand j'ai commandé du café. Puis je peux rentrer un sandwich là-dedans et ça se lave. Et ça reste hermétique, là. C'est vraiment bien fait.
Mais c'est ça. Moi, j'ai essayé des trucs en silicone, ou en tout cas, puis la fermeture, c'est toujours difficile, soit à ouvrir, soit à fermer. Mais là, comme ça doit être un peu le même genre de celui que vous aviez. Moi, je connaissais pas ça, mais c'est un sac en coton avec à l'intérieur un revêtement qui est fait de plastique recyclé.
Ou recyclé à partir des capsules de café, là, sans le café dedans.
Ben pour vous, c'est ça, ça doit être pour ça qu'ils vous le donnaient en prime, mais ici, c'est fait avec des bouteilles de plastique recyclé.
Puis je veux pas te faire perdre de ton temps précieux, mais faites bien attention quand vous fermez la fermeture éclair, un peu comme pour les fermetures éclair de pantalon, pour ne pas prendre les bouts de sandwich à l'intérieur.
Ben, je suis d'accord. Puis là, c'est ce que j'aime ici, c'est tout simplement, ça se referme avec un velcro.
Ah.
Donc, ça doit pas être autant 100% étanche, mais beaucoup, beaucoup plus pratique sur le long terme. Et on peut laver ça à la machine, là, donc
oui,
c'est vraiment
ça,
pratique. Ça, c'est Fluff,
okay.
Le site de Fluff, F-L-U-F. Donc, vous cherchez ça, là, puis vous allez arriver sur le site avec toutes sortes d'autres choses. Ça, c'est vraiment chouette. C'est sur le site Etsy, donc vous connaissez sûrement Etsy,
oui.
Là, pour les artisans. ETSY, c'est WeCraft Soap. C'est la compagnie qui vend ce produit-là sur Etsy. Et c'est des petits ustensiles réutilisables qui vont dans une petite boîte très mignonne. Vous avez un couteau, une fourchette, une cuillère. Et c'est fait à partir de... Il a fallu que j'aille voir sur le site pour savoir c'est de la fibre de blé. Donc, c'est vraiment complètement écologique. C'est ça qui est intéressant. Puis, ça peut être personnalisé. Donc, on peut écrire votre nom sur la boîte. puisque c'est sur le site de Etsy. Vous commandez et on vous le fait spécialement pour vous. Et puis, ça vient en cinq très jolies couleurs, là, un peu pastel, bleu, turquoise, jaune, blanc et une espèce de petit rose saumon, on va dire. Donc, tout ça, là, pour améliorer votre boîte à lunch cette semaine, pour cette rentrée, ben, cette semaine, pour ceux qui commencent la semaine prochaine, oui. Ça, c'est plus pour l'université et le cégep, mais un petit peu plus tard, là, pour les plus jeunes.
Ben, les parents ont donc quelques jours de plus pour aller chercher ou pour se procurer ces appareils-là ou ces instruments-là.
Exactement. Il y en a parmi eux qu'on peut commander en ligne avec livraison, mais il y en a qu'on peut aller récupérer en magasin aussi pour moins cher et avoir plus rapidement l'article aussi.
Excellent. Isabelle Falardeau, c'était un plaisir de travailler avec toi cet été.
Pareillement, j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine peut-être.
Certainement. Alors nous, on va passer tout de suite, hein, je te peux mettre un pont, mais on va y aller tout de suite. Puis Isabelle reste avec nous, c'est sa tante, on va parler à notre ami Serge Vredette. Salut Serge.
Allô, allô.
Qui commente pendant mes nouvelles.
il faut pas faire ça, hein?
Non,
je
comprends, mais des fois, je me rappellerai toujours qu'il y avait eu une élection, je pense l'élection, un référendum à Radio-Canada, puis dans la salle, avec Bernard de Rome, il y avait des gens qui étaient partisans.
L'élection du PQ, oui,
et donc, les gens ont applaudi, et ça passait pas très bien.
J'étais là, moi. Ouais. Je travaillais ce soir-là.
Ah, oui, oui.
Comme guide, je travaillais comme guide, puis écoute, on était...
J'étais vraiment plus vieux que moi, mais en 76, j'étais pas encore OK, on parlera pas de nos âges.
Non.
Alors, toi, Serge Bradet, tu nous parles d'expérience pour redécouvrir Montréal.
Oui, un article de Caroline Marengo dans le TV Hebdo.
Ah bon?
Que j'achète encore, un des derniers. Pas besoin de partir très loin pour se sentir en voyage. On peut, en effet, mettre le cap sur Montréal et s'amuser à explorer la métropole sous différents angles. Contempler l'art public. Saviez-vous que Montréal est un musée à ciel ouvert?
Ah!
Oui, en effet, on peut y admirer plus de 1000 œuvres d'art public effectuées par près de 500 artistes. Elles sont répertoriées sur le site Web d'Art Public Montréal, élaboré par Tourisme Montréal et la Ville. Alors, le site, c'est artpublicmontréal.ca.
OK.
À consulter pour faire nos choix et organiser nos itinéraires. Et savez-vous combien de murales on compte à Montréal sur les murs à l'extérieur?
C'est une très bonne question. J'en ai vu tellement. Toi, Isabelle?
Un chiffre?
Okay. Elle dit une trentaine. Moi, je vais être plus généreux que ça. Je vais aller à 50.
420.
Tu dis combien que tu avais dit?
400.
Non, je pense, Isabelle, je pense que...
Moi, j'avais dit plusieurs centaines.
Plusieurs centaines. Okay,
420.
C'est toi qui avais raison, puis c'est moi qui avais tort.
420.
On y va. 420?
Oui.
Wow, quand même.
Oui. Découvrir un restaurant exquis. Ce ne sont pas les options gastronomiques qui manquent dans la métropole. Montréal est peuplé de restaurants réputés, dont 3 étoilés Michelin. Europea, Mastar et Sabayon. Je suis jamais allé dans ces 3-là.
On n'a peut-être pas les moyens d'y aller.
Oui, bien, c'est ça. Et, 7 bibes gourmands qui offrent un excellent rapport qualité-prix selon le célèbre guide. Alors, vous avez Annette Baravin, vous avez Cadet, Casavant, L'Express, que là, c'est connu, Parapluie, Le Petit Alep et Rôtisserie La Lune. De notre côté, on a récemment eu un coup de cœur pour la savoureuse et surprenante cuisine chinoise contemporaine de l'oncle Li, qui a également été consacré comme l'un des coups de foudre de Christian Bégin dans l'émission du même nom.
Ah! Ah, mais écoute, peut-être qu'on pourra remplir nos boîtes à lunch avec les restes.
Aimeriez-vous expérimenter le plus haut saut en bungee du Canada?
Oui, moi j'aime beaucoup ça en passant. Ouais.
Moi je vous dis ça, c'est pas pour moi. Isabelle non plus, Samuel, je sais pas.
Non.
Les coups de bungee, Samuel, t'aimes ça?
Pas particulièrement, non.
Bon, il y a seulement que moi qui risque sa vie ici. OK, on continue. Alors, dis-moi ce que c'est, ça.
Le plus haut saut à l'élastique du pays s'effectue à Montréal, plus précisément dans le Vieux-Port, sur le quai des convoyeurs à 64 mètres de hauteur.
Ah, je l'ai fait, ce saut-là, déjà.
Oh, mon Dieu, Seigneur.
Ouais.
Il s'agit même du plus haut saut en bungee en milieu urbain de l'Amérique du Nord.
Ah, je savais pas.
Les amateurs de sensations fortes, âgés de 14 ans et plus et pesant entre 100 et 250 livres, peuvent le pratiquer. La pratique est toutefois déconseillée aux personnes atteintes de troubles respiratoires sévères, épilepsie, hypertension, problèmes musculo-squelettiques et bien sûr aux femmes enceintes.
Donc, je ne devrais pas y participer. Pas que je suis enceinte, mais pour toutes les autres raisons.
Ah, c'est une... c'est pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux.
Ouais, vraiment. OK, alors, j'arrête. Continue, Serge.
Oui. Faire du vélo le long du canal de la Chine et y lire un livre. Le réseau cyclable de Montréal s'étale sur 1083 kilomètres.
OK, je te reprends. Faire du vélo le long du canal de la Chine et lire un livre. Moi, je ne sais pas pour
on
toi.
Arrête.
Là. OK, j'espère, parce que lire un livre en vélo, c'est pas une bonne idée.
Non, on fait un petit arrêt, là, c'est sûr. On fait un petit arrêt sous un arbre à l'ombre ou sur un banc. Puis, alors, on affectionne particulièrement la piste du canal de la Chine qui, tout en longeant l'eau, nous offre une vue imprenable sur les gratte-ciels et les bâtiments centenaires de la métropole. De plus, on s'arrête au marché à Toiture en chemin pour y faire le plein de victuailles, pour recharger nos batteries. On prend une pause et on lit un bon livre avant de remonter sur notre bécane.
Bon, recharger les batteries, je fais encore une petite interruption. Pour ceux qui... Ben moi, je ne l'ai pas encore, mais je vais m'acheter un vélo assisté.
Ah oui?
Ben, à l'âge que j'ai, je trouve que je vais épargner mes genoux pour monter la côte. Là, ouais. Mais donc, il faudrait qu'ils mettent des endroits pour recharger les batteries. Continuons.
Ça va venir.
Ça va venir, oui.
Prendre part à une exposition immersive. Pour amuser les jeunes et les moins jeunes, on prend part à l'une des nombreuses aventures immersives offertes dans la métropole. Pour les mélomanes, Oasis Immersion, au Palais des Congrès, propose Amplifier l'expérience rock immersive, un happening musical présenté par le magazine culte Rolling Stone, qui encense l'esprit et l'héritage du rock'n'roll.
Wow!
L'expérience multimédia spectaculaire dans la troisième salle vaut le déplacement, parole de journaliste. Présentée dans les locaux emblématiques de l'ancien Musique Grévin au Centre Étune, l'exposition immersive « La fabuleuse Fab Expo » déploie quant à elle 21 univers sensoriels sur 3 étages. À travers des décors grandioses, des illusions, des parfums ambiants et des œuvres flamboyantes, petits et grands s'amuseront à se photographier. Une aventure visuelle et olfactive. Enfin, au registre des incontournables, soulignons les expériences immersives proposées par Fever, comme Aura, à la Basilique Notre-Dame, qui se passe désormais de présentation, et la nouvelle expo Titanic, un voyage immersif, qui nous plonge dans l'univers de ce célèbre navire avec des reconstitutions, grandeur nature, des cabines, des animations vidéo et des projections 3D. À ne pas manquer à la place Bonaventure jusqu'au 26 octobre.
Je suis le roi du monde!
Oui.
J'ai une amie qui a souligné l'ironie de appeler ça un voyage immersif.
Oui.
Ben, je n'osais pas faire le commentaire. Je dis, ils vont penser que je suis toujours en train de faire des blagues, mais finalement, je ne suis pas tout seul, hein, Isabelle? Mais effectivement, immersif, oui.
En 6e position, admirer la vue au belvédère Kondiaronk, de jour comme de nuit. Oui. Non, mais quelle vue! Ce belvédère s'avère un classique incontournable et gratuit pour admirer le paysage montréalais enchanteur qui se dévoile au sommet du verdoyant Mont-Royal. Un point de départ parfait pour s'évader ensuite en nature, en plein cœur de la ville, en empruntant les sentiers de marche du parc sur plusieurs kilomètres. Plus tard, on peut même faire une escapade nocturne au centre-ville, située au pied de la montagne, et pourquoi pas souper à la fameuse maison boulue du Ritz-Carlton,
ouais.
Quand on aime le moyen, sur Sherbrooke.
Et, on va manger des boîtes à lunch par la suite.
Oui, hein? Oui. Puis on gravit à nouveau le grand escalier du Mont-Royal jusqu'au belvédère Kondiaronk, et on admire cette fois l'éblouissante métropole tout illuminée,
ouais.
Le soir.
Ben, tu sais, Serge, j'avais de la visite d'Europe pendant quelques semaines récemment et j'ai redécouvert Montréal. C'est vraiment beau. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans le vieux Montréal le soir. Nous, on avait fait ça après être allé voir le Cirque du Soleil. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que c'est beau!
Mm-hmm.
On ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est vraiment beau, Montréal.
C'est quand on reçoit un visiteur étranger pour quelques jours chez nous et qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire avec la personne? Il faut que je la sorte un peu, tu sais.
Ouais.
Et on découvre Montréal à ce moment-là.
T'sais. On est monté au chalet du Mont-Royal, puis il faisait comme 1 million de degrés. Fait que c'était un petit peu chaud, mais quand même, c'était beau.
Mm-hmm.
Et je l'ai amené à Québec aussi, ma ville natale. Puis vous savez quoi? C'est vraiment beau aussi. J'avais honte de dire que j'avais pas vu ça depuis longtemps.
Mm-hmm.
Alors, c'est quoi qu'on voit? Quand on voit pas, il faut avoir quelqu'un d'autre. Il faut voir notre ville à travers les yeux des autres.
Mm-hmm.
Ouais.
Effectivement.
En 7e position, prendre un verre sur une terrasse au perché. Ah oui, ça, n'importe quand.
Attention, perché en France veut dire autre chose, mais on continue. Ouais.
Mais vous êtes de feu. Tu es de feu ce matin, Denis Martin.
Je ne sais pas ce qui se passe parce que je me suis levé, j'étais complètement mort de fatigue. Puis là, on dirait que c'est ta faute. Quand tu es là, ça me fait rigoler.
Bon. Une autre bonne idée pour admirer Montréal de haut, siroter un cocktail et prendre une bouchée sur l'une des fabuleuses terrasses nichées sur un toit. Parmi les belles, les terrasses Perché et William Gray à l'hôtel du même nom, dans le Vieux-Montréal, la terrasse Bivouac dans le quartier des spectacles, la terrasse R de l'hôtel Renaissance au centre-ville et la belle vue au Marriott Château-Champlain à côté de la gare Windsor. Wow. Et voilà. Cette belle expérience pour la fin de l'été, même l'automne. Tu sais.
Bon, je vais te donner encore une minute pour faire des petites brèves.
Oui. Ah, là, c'est l'origine de certaines expressions.
Ah, j'aime ça.
Se faire passer un sapin.
Ah, j'aimerais ça savoir d'où ça vient.
C'est ça. Mais tout le monde sait ce que ça veut dire, je pense.
Oui. Bon, mais ça dépend où on le passe, le sapin. Là, mais en fait,
l'origine. Cette expression tire son nom du sapin baumier qu'on utilise comme sapin de Noël. Et pour les ébénistes, le baumier ne vaut pratiquement rien sur le marché. En effet, les planches de sapin baumier ont tendance à craquer une fois séchées, contrairement à d'autres conifères, comme le pin et l'épinette. À l'époque, regardez bien, à l'époque, lorsque les Anglais venaient acheter du bois de construction aux Canadiens français, les francophones remplaçaient le bois de qualité par du sapin baumier au moment de la livraison. Pas fin, c'est pas gentil. Une variante bien connue de l'expression est « se faire passer un citron ».
Ouais.
Par exemple, lorsqu'un vendeur, par exemple, lorsqu'un vendeur ou un particulier nous refait une voiture de mauvaise qualité ou avec des défauts de fabrication, c'est un calque de l'expression anglaise to give a lemon qui signifie la même chose.
Bon, je te fais remarquer qu'on est le 20 août, puis si elle nous parlait de Noël. Alors, mes deux chroniqueurs d'amour, j'ai vraiment eu du plaisir à travailler avec vous cet été, puis en espérant que ça se reproduise au cours de l'année et peut-être même l'été prochain, je vous souhaite de passer du bon temps encore. Hélène sera de retour la semaine prochaine pour travailler avec vous deux. Merci beaucoup, Isabelle Falardeau, et merci beaucoup, Serge Bradet.
C'est un plaisir.
Merci.
Bye, Isabelle.
Bonne journée. Il me reste un petit peu de temps. Je veux quand même, parce que je ne pensais pas qu'on aurait été aussi vite, alors je vais parler d'autres actualités. Je vous rappelle que je prépare ma revue de presse avec l'aide de l'intelligence artificielle. Des fois, je me dis, moi, c'est l'insignifiance naturelle par bout. En tout cas, on y va. Armée canadienne, 5 militaires de la base de Valcartier ont été suspendus pour avoir pratiqué au tournage d'une vidéo où ils effectuent des saluts nazis. La vidéo, qui a été partagée sur les réseaux sociaux, a été qualifiée de comportement haineux par le commandant de l'armée canadienne. L'armée a ouvert une enquête et a indiqué qu'elle ne tolérerait pas de tels agissements. Le conflit de travail chez Hydro-Québec s'intensifie. La société d'État a recensé 500 cas de vandalisme sur ses camions et compte envoyer une facture de plus de 200 000 $ au syndicat pour les dommages causés. Et politique états-unienne, le président Donald Trump a réitéré sa position sur le conflit en Ukraine, assurant que des troupes états-uniennes ne seront pas envoyées sur le territoire ukrainien. Ses commentaires interviennent alors que les incertitudes persistent sur les garanties de sécurité à offrir à l'Ukraine. Je vous rappelle donc que c'est une journée où il y aura des risques de pluie, notamment au Québec, un peu partout en fait. Et donc aujourd'hui, pas trop d'humidex, sauf en Saskatchewan, où il y a une vague de chaleur, en fait un avertissement de chaleur et un avertissement là, de tempête tropicale qui pourrait donner quelques ennuis à Terre-Neuve. Après la pause, on reçoit Olivier Niquette, on va parler de son livre « Le savais-tu? » Le hockey. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je serai là toujours.
Et on écoutait Yannick Fournier, Quand le rideau tombe.
Olivier, Niquette, en jaquette.
Bon, je vous assure qu'il n'est pas en jaquette devant moi.
Je suis bien habillé.
Je voulais te surprendre, d'Olivier. Si tu me permets de te tutoyer.
Bien sûr, bien sûr.
J'ai l'impression de te connaître depuis longtemps parce que je t'écoute le matin. Mais moi, je suis pas en jaquette, mais toi, je vous trompe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Olivier Niquette, c'est un des humoristes et chroniqueurs les plus mordants du Québec. C'est un des artisans de l'émission culte La soirée est encore jeune, qui est devenue La journée est encore jeune. Puis il anime donc cette balado qu'on vient d'entendre, l'intro, dont on vient d'entendre l'intro, Olivier Niquette en jaquette. Je le reçois aujourd'hui pour parler de son livre Le savais-tu? Le hockey, qui est un recueil de faits là, sur ce sport, notre sport national. Mm-hmm. Olivier Niquette, bienvenue à l'émission.
Bien, merci de l'invitation.
C'est un plaisir de te recevoir. Comme je dis, j'ai l'impression que je te connais depuis longtemps. Alors, c'est quoi l'inspiration derrière ce livre-là?
Bien, en fait, c'est les éditions Michel Quintin qui m'ont approché pour faire ça. Puis cette collection-là, la collection « Savais-tu », c'est quelque chose que je lisais beaucoup à mes enfants quand ils étaient plus jeunes parce qu'ils ont plusieurs séries. Là, ça, c'est une nouvelle série sur le sport, mais je crois que la première, c'était sur les animaux. C'est vraiment ce qui a été le plus populaire. Là, ça a super bien marché. Ça a été traduit dans plusieurs langues et tout ça. Puis moi, quand mes enfants étaient jeunes, je leur lisais ça, puis... Puis je trouvais ça vraiment bien. Les dessins étaient beaux. Puis il y avait ces documentaires parce que, bon, par exemple, on nous donnait des informations sur des animaux, mais avec une pointe d'humour. Et mes enfants adoraient ça. Puis moi aussi, j'y trouvais mon compte. Alors, quand je pensais pas faire ça dans ma vie, écrire un livre jeunesse, mais quand on m'a proposé « Savais-tu » sur le sport, qui est aussi une de mes passions, je trouvais que c'était un bon fit.
Ben, j'allais arriver là. Donc, le hockey, c'est une de tes passions.
Oui, le hockey occupe beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie, que ce soit comme fan ou pour pratiquer le hockey. Là, mes enfants jouent au hockey. Je passe ma vie à l'aréna, finalement. Là, c'est un petit peu l'enfer. Là. Mes ados sont rendus plus vieux, donc je pense que bientôt, j'aurai plus besoin de les accompagner.
Ils vont pouvoir aller à l'aréna tout seul.
Ils vont s'arranger tout seul, mais non, ça occupe beaucoup de place dans ma vie, ce sport-là.
Donc, tu es hockey dad.
Ouais, exact.
Après les soccer moms. Parlons de contenu de ce livre. Là, je vais avouer à tout le monde, je n'ai pas reçu l'exemplaire de presse qu'on devait m'envoyer parce que j'imagine que le livre n'était peut-être pas prêt, mais il sort en librairie aujourd'hui.
Exactement.
Et donc, je ne vais pas faire semblant que je l'ai lu. Je sais ce qu'il y a dedans quand même. Alors, c'est surtout, il y a des anecdotes, des faits. Comment t'es-tu pris pour trouver cette information-là?
Ben, c'est beaucoup de recoupage de faits. Hein? Ben, celui-là, ça a donné que j'ai commencé en allant visiter au Centre des sciences à Montréal. Il y avait une exposition sur la science du hockey, puis tout ce qui... les exploits autour du hockey. Puis ça a été une bonne base pour m'inspirer, tu sais, pour voir dans quel sens je pourrais aller avec ça. Puis ensuite de ça, c'est vraiment des recherches sur Internet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de documentation sur le sport. Là. C'est assez impressionnant. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de contenu. Puis le plus difficile, c'est de faire le tri là-dedans, puis de s'assurer que, bon, on vérifie à plusieurs sources que c'est bien les bonnes informations. Et aussi, dans le cas du sport, ce qui n'était pas le cas avec les autres séries de Savais-tu, comme les animaux, c'est que on parle de records. Mais les records, ça change.
Oui.
Donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué là, de trouver des records qu'on est sûr que, disons, dans les prochaines années, ça ne changera pas pour que le livre soit encore relativement fiable longtemps. Là.
Tout à fait. Et il faut aussi écrire des phrases plus courtes, plus simples,
oui.
Pas parce qu'on veut infantiliser les enfants, mais il faut quand même aussi savoir à qui on s'adresse comme public. C'est pas simple, ça, non plus.
Oui, et puis trouver des références qu'ils vont connaître aussi, faire des comparaisons. La vitesse d'un joueur de hockey, tu peux pas comparer ça à... je sais pas, avec la vitesse d'un TGV ou je sais.
Ouais,
je sais
fait.
On peut pas. Il faut trouver quelque chose que les enfants vont comprendre, des enfants de... C'est plus pour les 7 ans et plus, mais je pense que ça peut être aussi pour les plus jeunes. Donc, c'est ça, c'est une écriture différente. Puis je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça parce que j'ai écrit des livres, puis je passe ma vie à écrire.
Ouais.
Mais là, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse un effort supplémentaire, que je sois plus rigoureux aussi. Pas que je le suis pas en général, mais tu sais, de faire plus attention en sachant que je parle à des enfants puis que c'est important de bien, tu sais, qu'ils partent sur une bonne base. Là.
C'est un livre illustré oui. Par Hugo G. Leclerc. Et là, je regarde, c'est pas souvent des joueurs de hockey qu'on voit. On voit des animaux, on voit de toutes sortes de personnages alors qu'on parle de hockey. Pourquoi?
Ben c'est, on voulait continuer dans la lignée des savais-tu sur les animaux. Donc, en, tu sais, les animaux, c'est une belle façon de, d'ajouter une couche aussi de, d'humour là-dedans, parce que c'est documentaire, mais c'est, ça passe aussi beaucoup par l'humour. Puis c'est un peu, dans tout ce que je fais, il y a un peu de ça, là, d'essayer d'informer, mais en divertissant aussi pour peut-être rejoindre un public plus large. Puis dans le cas de ça, ben peut-être ça va inciter les jeunes à lire plus puis à faire plus de sport si justement c'est le fun à lire, c'est drôle, les images sont rigolotes. Puis Hugo, j'ai l'éclair, c'est l'illustrateur, c'est pas mal lui qui a fait le gros du travail, là, qui a trouvé les idées un peu plus humoristiques qui fit. Ben, on a fait des petits brainstorms, là, mais t'sais, c'est lui qui a mis ça en application, puis c'est très réussi.
Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier que tu relates là-dedans, donc, que tu aimerais partager?
Il y a des trucs historiques un peu surprenants. Là, comme dès le début, on dit que les premières représentations de ce qui ressemble à du hockey, ça date de l'Égypte, là, parce que des sports où des gens poussent des objets avec des bâtons, ça existe depuis très, très longtemps. Donc, tu sais, les premières images qu'on pourrait penser qui ont rapport...
À savoir s'ils se battaient, mais en ce cas, c'est une autre manche. Oui.
Probablement que les Égyptiens se battaient, oui, j'imagine. Mais oui, fait que c'est des petites anecdotes comme ça historiques, là, où que les joueurs, par exemple, quand ils ont commencé à jouer, ils jouaient avec de la bouse de vache gelée ou des trucs comme ça, là, donc... Des trucs rigolos un petit peu.
Tu me permets de faire un petit à côté. Oui. La journée est encore jeune à Radio-Canada. Nous, on n'a pas de concurrence avec les autres radios parce que c'est une émission assez, moi, que je trouve très intéressante, que j'écoute religieusement. Mm-hmm. Ça revient bientôt?
Oui, le 1er septembre.
1er septembre, OK, quand même, dans une semaine, oui, presque. Sans rentrer dans la vie privée, Jean-Philippe sera là?
Il sera pas là au début. Ouais. C'est Jean-Sébastien Gérard qui va animer pour le début. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a retardé un peu notre saison parce que lui, il remplace Jean-Philippe partout finalement. Donc, c'est un bonsoir,
c'est
bonsoir.
Il l'a remplacé un peu partout.
Il était très occupé lui aussi, puis on voulait pas en perdre deux parce qu'il était trop fatigué. Donc là, on a retardé un peu notre saison, puis Jean-Sébastien va commencer ça, puis à un moment donné, on
va se croiser les doigts.
Oui, puis on lui laisse le temps de se reposer. Ouais.
Et toi, tu as recommencé Olivier Niquette en jaquette, parce que j'ai commencé à t'écouter à nouveau. Ouais. Ça, comment tu fais ça? Parce que c'est quand même très tôt le matin. À quelle heure tu te lèves?
Je me lève à 5 heures. C'est sûr que dans la journée précédente, je commence déjà à prendre des notes, puis à noter les idées que j'ai, puis les nouvelles qui m'intéressent. Mais je me lève à 5 heures, je passe à travers tous les journaux, puis j'enregistre ça chez moi, dans ma robe de chambre, effectivement.
Puis, dans un placard quelque part pour le son? On remarque
si
avec les nouveaux micros,
ceux
qu'on utilise, même ici, là, micros qu'on utilise, c'est assez unidirectionnel.
Oui, je suis vraiment l'homme orchestre de ce
moment. Ah oui, donc okay. Ben c'est une chose qui on apprend, puis c'est de la balade. Mais ça paraît pas, j'avais l'impression que tu étais en studio. Ouais. J'ai pas entendu le chien japper en arrière.
Non, c'est ça.
Olivier Niquette, donc ce livre est disponible à compter d'aujourd'hui.
Oui.
Savais-tu sport, le hockey, Olivier Niquette et Hugo, c'est Leclerc, Gilles Leclerc à l'illustration. Et c'est publié aux éditions Michel Quintin. Merci beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui.
Merci de l'invitation, ça m'a fait grand plaisir.
Merci. Ah bien, le rire, c'est un langage universel et c'est exactement ce que mon invité, Christian Tienchu, président et fondateur du Festival d'humour africain Afrikiri. C'est ce que donc c'est exactement ce que veut mon invité, parce que depuis la création de ce festival, c'est devenu une plateforme essentielle pour les humoristes du continent africain et de la diaspora. Et ça fait, leur permet de faire rayonner leur talent ici chez nous, au Québec. On peut dire qu'il est une véritable locomotive pour le rire d'Afrique, parce qu'on rit en Afrique. Moi qui ai visité ce continent plusieurs fois, je peux vous le dire qu'on rit beaucoup. Bienvenue à l'émission, Christian Tienchu.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ah, c'est un plaisir. Alors, le festival a été créé en 2017. Qu'est-ce qui a motivé ce festival? Qu'est-ce qui vous a motivé à le lancer et surtout de se dédier spécifiquement à l'humour africain?
Merci pour cette question qui est essentielle, mais peut-être un petit point de correction. Le festival, il existe depuis 2015.
Ah.
Par contre, oui, la date de 2017 a un fondement, c'est l'année de la création de l'organisme qui porte désormais le festival, qui est Afrique Plurielle.
D'accord. Ça, c'est moi qui ai mal lu le communiqué, je suis désolé.
Voilà. Donc... voilà, donc Afrikiri est né de la volonté, c'est ça, de permettre aux artistes internationaux d'origine africaine et les jeunes talents d'ici de se faire connaître. Je vais placer un peu le cadre par un peu d'histoire. Quand moi je suis arrivé au Québec fin des années 2000, et j'ai eu la chance de travailler à un endroit magnifique, El Atohu, la Cité des Arts du Cirque. J'étais aux communications et en même temps j'étais l'agent de liaison avec les organismes du quartier. Donc c'était un point central d'observation du microcosme artistique culturel de Montréal. Et donc en regardant, il était très facile de constater à ce moment-là quand on regarde des événements d'envergure comme Juste pour rire ou Comédie Ha 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 à Québec. La programmation, elle est belle, elle est diversifiée, mais il n'y avait pas ou presque pas d'artistes en provenance du continent. Pourtant, l'Afrique francophone, c'est des centaines et des centaines de millions de personnes qui parlent en français, avec un humour rayonnant, mais qui n'était pas présent ici. Et ce n'est pas qu'on en voit juste pour rire, comme il dit, mais c'est parce qu'ils ont un public déjà acquis au fil des années et que ce n'était pas une préoccupation pour eux. Alors, donc, nous, on s'est dit, ben, il y a un manque. Il y a un manque et aussi, quand je regardais les jeunes talents humoristes, si on va sur les médias, on va les voir performer, on va les voir faire des choses, mais on va rarement les voir sur les grandes scènes, sauf les grands noms. Quand je parle de grands noms, on va voir des gens comme Eddie King, on va voir des gens comme Boucar Diouf, on va voir des gens comme... par exemple, son nom m'échappe, mais il y a quelques grands noms qu'on va voir.
Oui.
Mais les jeunes talents, moi, quand je démarrais, il y a des gens comme, quand on a démarré le festival, il y avait des gens comme Dolino, Réginal, Saint-Éloi, qui pour moi, c'était des jeunes talentueux, mais qui n'avaient pas voix chapitre. Donc, on est parti de ce principe-là de faire un maillage entre les grands talents du continent ou qui sont en Europe, qui ne sont pas vus ici, et les jeunes talents qui ont besoin d'avoir le pied à l'étrier, d'avoir une plateforme pour se faire connaître, pour grandir, pour avoir de la visibilité. Et donc, ce qui fait que ça nous fait une programmation chaque année assez éclectique, qui est un mélange de talents internationaux et de jeunes pousses québécois, afro-québécois.
Donc, c'est vraiment pour donner un coup de pouce à la relève, mais j'aimerais ça qu'on parle peut-être de cet humour africain. Est-ce qu'il est différent de l'humour québécois? Et en quoi est-il différent?
Ben, l'humour est différent parce que l'humour transporte en soi un peu la façon d'être, la façon de penser, la façon de voir le monde.
Ah bon, OK.
Ce qui est certain. La beauté d'Afrikiri, qu'on ne présente pas juste une facette de l'humour africain, parce que l'Afrique, c'est 53 pays. Donc, et là, nous travaillons principalement sur l'Afrique francophone. Donc, c'est une vingtaine de pays qui sont présentés, et au-delà de l'Afrique francophone, parce qu'on travaille aussi sur la diaspora africaine. Quand je parle diaspora, je parle des Antilles françaises, je parle d'Haïti, je parle même des fois on a eu des personnes d'origine qui ont des origines afro-colombiennes et ainsi de suite. Donc oui, le rire, l'humour porte la culture. Donc ce qui est véhiculé dans les spectacles du monde, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon d'être, c'est une façon aussi de présenter les difficultés du quotidien. Et même si le rire est universel, la façon de le raconter, la façon de le vivre, la façon de le voir, elle est différente. Et la beauté de la chose, c'est qu'en allant vers ces univers différents, on découvre des nouvelles cultures.
Je pense toujours, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Christian, vous avez parlé de Boukhar Diouf qui nous a appris à savourer cette espèce d'humour teinté d'histoires qui sont très attachées, comme il parle de son père, de son grand-père. Puis je pensais toujours à cette blague qui disait « Fais attention quand tu traverses une rivière sur des troncs d'arbres, parce qu'un des troncs d'arbres pourrait ne pas être un tronc d'arbre, mais un alligator ».
Tout à fait. Donc, c'est un humour teinté de messages, teinté de... donc, en même temps, ça fait rire, mais en même temps, ça fait réfléchir. Donc, c'est très... ça emprunte à l'univers du conte.
Oui, voilà. Voilà. Oh, c'est toujours là?
Oui. C'est une façon très subtile et très africaine, d'amener des messages importants, surtout quand on sait que le conte avant, c'était l'une des façons de pouvoir éduquer les jeunes, et c'est une façon assez ludique qui fait que le message passe sans que parfois les jeunes ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont captivés par l'histoire. Mais en l'écoutant une, deux, trois fois, quand le grand-père la raconte, ben, plus on grandit, plus on se dit « Ouais, mais tiens, mon grand-père me disait, comme Boukhar à la piscine. »
Oui. ça, je pense que, quelque part, ça rejoint, c'est universel. On a tous des histoires à raconter qui nous viennent de notre père, notre grand-père ou de notre grand-mère aussi. Alors moi, qui ai vécu assez longtemps au Mali, j'ai appris une expression qu'on disait toujours quand les Blancs viennent ici, on leur voit le front, mais éventuellement, on leur voit la nuque, hein, disant qu'on ne reste pas longtemps. Je trouvais que c'était savoureux comme expression. Est-ce qu'on va voir beaucoup de ce genre d'expression-là lors du festival africain?
Cette année, c'est la 10e, donc c'est une année anniversaire. Et nous sommes très heureux de cela. Nous sommes très heureux de cela. Allô?
Oui, je suis toujours là.
Oui, d'accord. J'ai eu comme un blanc. Oui, donc c'est une année anniversaire. Oui, on va avoir de cela parce qu'on a la chance pour cette 10e d'avoir une programmation avec 11 humoristes. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir le 4 octobre, notamment, à l'espace vraiment de Boukhar Diouf qui nous fait l'honneur d'être présent pour cet anniversaire. Donc, c'est sûr qu'on aura... On aura ce type d'expression. On aura aussi en grande première canadienne un humoriste qui est actuellement l'un des porte-étendards de l'humour en Afrique francophone, hein, la personne de Djibo Cravate. Le nom en lui-même déjà est assez énigmatique, qui est un humoriste ivoirien qui a 30 ans de carrière, qui est un des visages les plus connus de l'humour actuellement sur le continent. Donc c'est sûr que oui, on va avoir... on va avoir des expressions à découvrir, des univers à découvrir. Et surtout, le 3 octobre, on propose une palette de jeunes talents d'ici et d'ailleurs, avec Dolino, qui est pour nous comme un enfant d'Afrikiri qui a commencé à se faire connaître au tout début d'Afrikiri. Nous avons eu le plaisir de le présenter, de le faire découvrir. Aujourd'hui, il rayonne partout, il sera de retour après une tournée en France avec le Montreux dans les grandes salles en France et en Belgique. Et on va faire découvrir des jeunes humoristes aussi comme Claudine Napoléon, qui est une jeune femme nouvellement dans le milieu, mais qui est en train de défoncer les portes. Donc oui, je pense que cette édition va être une édition très intéressante. Et surtout, ce qui me plaît moi et à mon équipe, c'est que nous avons initié l'année dernière une tournée.
Oui.
à travers quelques villes du Québec. Et cette année, on reprend la tournée en ajoutant des dates, ce qui, pour moi, était l'un des points essentiels de notre mission parce que, comme je disais tantôt, les jeunes afro-descendants, humoristes en recherche de visibilité, ben, une fois qu'on a fait Montréal, ben, ça ne suffit pas. Donc, leur permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se faire connaître dans le Québec profond, c'est une mission qu'on s'est donnée. Donc, après Montréal, on a 5 dates, juste 5 dates, mais on comptait bien par la suite agrandir au fil des années l'ouverture et la programmation de ces jeunes talents-là au-delà de Montréal.
Alors, pratico-pratique, le festival d'amour, d'amour, je commence. Un petit lapsus, mais qui est peut-être pas aussi mauvais que ça.
Amour, humour.
Ça va pas mal ensemble, parce que quand on rit, c'est parce qu'on s'aime. Le festival d'humour africain, ça a lieu où, c'est quand, et parlons aussi de combien ça coûte, et voilà.
Voilà. Donc, alors, le festival Afrique rit cette année à Montréal, 3 et 4 octobre, le 3 pour l'ouverture, c'est à l'auditorium du Patro Villeray. Le 4 pour la grande soirée anniversaire, 10e anniversaire, c'est à l'espace Le Vrai Monde. Et donc, par la suite, on a la tournée au Québec du 10 au 18 octobre. Tous les billets sont disponibles au www.afrikiri.com. Et les prix c'est vraiment pas cher pour la palette d'artistes qu'on a. Les prix varient entre... À Montréal, c'est 40$ et en région, c'est 35$. Les billets sont sur la plateforme Zifi pour réduire au maximum les coûts pour les festivaliers. Et donc, on a hâte de pouvoir recevoir les amateurs d'humour qui souhaitent découvrir des univers différents, des univers variés, pouvoir rire, mais surtout aussi manger des grillades africaines qu'on offre à l'entrée pour toujours pour être dans cette ambiance festive avec des épices, avec de la bonne musique, comme autour d'un grand arbre, un grand baobab.
Ah, un arbre à palabres, comme on dirait. Merci beaucoup, Christian Tchentchu. Merci d'avoir été avec nous ce matin, puis bon succès.
Merci pour l'invitation et à très bientôt.
À très bientôt. Bon, j'ai un peu de temps pour vous parler un peu d'inclusion, de solidarité. Voici donc une courte revue de presse préparée avec l'aide de Gemini, l'intelligence artificielle de Google. D'abord, à Mauricie, défier la sclérose en plaques une marche à la fois. C'est la mission de Sclérose en plaques Canada, région de Mauricie. C'est avec sa 5e édition du défi des escaliers SP. Ça a lieu le 28 septembre à Trois-Rivières. 4 parcours sont proposés. 1, 5, 12 ou 17 kilomètres. Tous jalonnés d'escaliers à gravir. Déjà une 60aine de coureurs sont inscrits à cette compétition sanctionnée par la Fédération québécoise d'athlétisme. L'objectif, amasser 30 000 $ pour financer les services offerts aux personnes atteintes de sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui s'attaque au système nerveux central. Et à Montérégie, un projet novateur vient de voir le jour. Chez nous, Solidaire, cet immeuble compte 19 logements adaptés pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles du spectre de l'autisme. Chaque résident bénéficie de son propre appartement, favorisant l'autonomie et l'intimité, tout en ayant accès au soutien d'une équipe spécialisée disponible en tout temps. Le projet, financé à la hauteur de 4,2 millions de $ par la Société d'habitation du Québec et le ministère de la Santé et des services sociaux, veut offrir un milieu de vie inclusif et sécuritaire et humain. Et enfin, à Ottawa, c'est le Collège La Cité qui franchit une nouvelle étape vers l'inclusion. L'établissement obtient plus de 1,7 million de $ du gouvernement fédéral pour un projet de recherche appliquée. Porté par Humalab, en collaboration avec la Boussole du Cap, le projet vise à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants francophones en situation de handicap. Pour la cité, il s'agit d'un pas de plus vers une communauté collégiale. Une communauté collégiale... mon Dieu, je viens de perdre la ligne. Communauté collégiale plus équitable. Et puis, et chaque étudiant peut réussir et contribuer à la société sans barrière. Un petit rappel météo, donc oui, c'est un petit peu plus frais, mais il y a quand même des humidex dans certaines régions du pays, puis il y a toujours cet avis de climat tropical, de tempête tropicale qui pèse sur l'est du pays. En fait, on parle de Terre-Neuve et Labrador. Après la pause, on va parler d'actualité partout au Canada, au Canada francophone, et on va parler aussi des chants d'Asbiol. Alors, tout de suite après la pause.
Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
On écoutait à l'instant Elliot Maginot parmi les autres.
Recevons maintenant Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef à Franco-Presse, pour parler des actualités qui touchent le Canada français. Allô, Julien, ça va bien?
Oui, très bien, merci.
Alors, la recherche en français, l'ACFAS déplore le manque de respect de deux ministres. Ça sort de Franco-Presse.
Oui, parce que l'ACFAS a envoyé une lettre à deux ministères fédéraux au cours de l'été. C'était une lettre qui avait été signée par plus de 1000 chercheurs. Ils ont aussi publié une lettre d'explication en opinion libre. La presse l'a publiée, puis nous, on l'a repris aussi. De notre côté, on a contacté les deux ministères en question pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient répondre à la demande à la lettre de l'ACFAS. Puis le gouvernement nous a répondu par écrit, le ministère de l'Industrie plus précisément, confirmer son engagement à soutenir la recherche en français. C'est faux, nous a répondu Sophie Montreuil, qui est la directrice générale de l'ACFAS. à qui on a montré la réponse qu'on a reçue. Elle souligne qu'il y a vraiment un manque d'équité dans l'attribution des subventions de recherche en français. C'est pas encouragé, c'est pas assez financé, c'est pas assez financé au niveau que ça aurait besoin de l'être. Le gouvernement a répondu aussi qu'ils ont augmenté le financement de l'éducation postsecondaire, mais Sophie Montreuil précise que c'est de l'argent qui est destiné à l'éducation et aux professeurs, pas à la recherche. Le gouvernement, dans sa réponse, indique aussi qu'ils ont donné 1,7 million de dollars par année au service d'aide à la recherche en français, qui est administré par l'ACFAS et qui devrait servir à augmenter la recherche en français, mais Sophie Montreuil répond que ce montant-là n'est pas seulement pour le service. Il y a d'autres programmes qui s'en servent. Puis bien que certaines subventions ont permis d'augmenter le nombre de demandes en français, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement approuvés ou acceptés. Donc, ils sont financés à la fin. Même si on les présente, on peut être refusé. Donc, donc Sophie Montreuil se dit assez insultée par la réponse du gouvernement, puis surtout qui semble avoir oublié tout le travail qui a été fait avec l'ACFAS sur ce dossier-là au cours des dernières années.
Ouais. Alors, allons au feu de forêt maintenant des Néo-Brunswickois poussés à l'inactivité, l'Acadie Nouvelle.
Oui, parce que si on suit un peu les feux, là, ça s'est calmé, ça va mieux, mais il y a encore des incendies hors contrôle, entre autres, près de Miramichi, dans le sud-est. Donc, il y en a à Terre-Neuve aussi. Mais l'Acadie Nouvelle nous présente un peu les conséquences auxquelles on ne pense pas de ces incendies de forêt, parce que on parle beaucoup des. Alors, ça s'approche des villes, des gens qui sont évacués, puis des maisons, et c'est triste, là, qui se font détruire. Mais il y a d'autres conséquences. Ils ont entre autres parlé avec la professeure de biologie de l'Université de Moncton, Mélanie Jean, qui habituellement, en août, va, avec ses étudiants, va cueillir des échantillons en forêt, puis ça, ils s'en servent à la rentrée pour faire des analyses, puis avancer des recherches. Mais là, ils peuvent pas y aller en ce moment, aller chercher ces échantillons-là. Il y a aussi des cours intensifs qui se donnent à la mi-août qui pourront probablement pas être offerts, ce qui va créer un trou dans les données et de la professeure et dans la formation de ses étudiants, parce que c'est un cours qui est donné juste aux deux ans. Il y a d'autres activités importantes comme la plantation de nouveaux arbres qui est stoppée. Il y a une coopérative du nord de la province qui est paralysée. Les travailleurs peuvent pas aller planter d'arbres, donc ils sont pas payés. Donc, la coopérative est un peu inquiète qu'ils en aillent se chercher un autre travail d'ici la fin de l'année, puis qu'eux ne puissent pas finir le contrat qui devrait prendre fin le 19 septembre. Et finalement, on nous parle aussi des bleuetières qui sont très nombreuses aussi au Nouveau-Brunswick. Qui ont dû cesser la cueillette au cours des dernières semaines. Mais dans l'article qui date quand même de la fin de la semaine dernière, on parlait qu'il y avait une chance que ça reprenne cette semaine, mais j'ai pas pu vérifier encore.
L'Orléanais nous parle des potagers pour contrer l'inflation.
Oui, on retourne à Orléans. La semaine dernière, on parlait d'une affiche qui n'avait pas d'accent.
Mais on parle d'Orléans, on est en banlieue d'Ottawa, justement.
Oui, exactement. On n'est pas dans le sud des États-Unis ou en France. Donc, le journal Orléanais qui nous parle d'insécurité alimentaire, entre autres à travers la popularité grandissante d'un jardin communautaire dans la ville, les responsables ont remarqué un intérêt croissant pour la communauté pour cultiver leurs propres légumes pour leur consommation personnelle. À leur avis, c'est en grande partie dû à l'augmentation des coûts des denrées alimentaires. Il y a un petit peu d'entraide entre les gens qui cultivent, donc on cultive des légumes puis on se les partage. Mais pour la plupart, c'est la culture pour leurs propres besoins. Ils parlent aussi au Centre de ressources communautaires d'Orléans, Cumberland, qui gère la banque alimentaire. Ils disent avoir vu une augmentation de l'achalandage cette année. En 2024, c'était en moyenne 1038 personnes par mois qui fréquentaient la banque alimentaire. Cette année, pour l'instant, c'est plus autour de 1247 personnes en moyenne. Eux aussi ont construit un jardin communautaire pour appuyer la communauté, appuyer les gens. Puis, il note qu'il y a quand même une augmentation aussi de la générosité en dons monétaires et en temps.
Les antennes de Victoria et de Vancouver de l'Alliance française se donnent la main, ça vient de La Source.
La Source à Vancouver qui, la formation des Alliances françaises, c'est une association qui a la mission de promouvoir la langue française et la culture francophone par l'enseignement et des événements culturels. Et c'est a été initié par la France, pas par le Canada. Ça a été créé en 1883, puis c'est devenu comme la première organisation, c'est reconnu comme la première organisation non gouvernementale culturelle au monde. Il y a une dizaine de chapitres partout au pays. Et Mais bon, la pandémie a un peu affecté les activités, fait que c'était un peu plus calme, et surtout du côté des deux chapitres de la Colombie-Britannique, à Vancouver et Victoria. Donc, il y a eu cette idée-là qui est née de rapprocher les deux pour développer plus d'activités et pérenniser leurs actions à long terme. L'Action française de Vancouver est considérée comme une des plus actives au monde. C'est un des organismes francophones qui produit le plus d'événements à Vancouver. Tandis que celle de Victoria, mais c'était la plus petite, puis elle fonctionnait sans employés à temps plein. Il y avait quand même, mais même s'il y a beaucoup de besoins sur l'île de Vancouver et à Victoria, cette alliance-là sur à Victoria fonctionnait grâce à des bénévoles dévoués, mais arrivait pas à se développer davantage. Donc, cette fusion-là devrait permettre, surtout au chapitre de Victoria, d'offrir un petit peu plus de services. On peut, par exemple, on veut pouvoir offrir le test de connaissance du français, le test d'évaluation du français, qui est essentiel pour les gens qui veulent obtenir la résidence permanente, mais qui n'est pas offert n'importe où.
Et peu de plaintes au commissariat des langues officielles des territoires du Nord-Ouest, selon l'Aquilon?
Le commissariat aux langues officielles des territoires du Nord-Ouest a publié son rapport annuel pour 2024-2025. C'est un document très court, nous dit-on, parce que au cours de cette année-là, ils ont seulement eu deux plaintes qui ont été traitées et aucune enquête ou recommandation. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était une année de transition pour le commissariat. C'est une nouvelle commissaire qui a commencé à travailler au mois de janvier. Ça représente quand même une diminution par rapport à l'année précédente où il y avait eu 5 plaintes enregistrées et traitées. Autre chose qui est important de savoir, c'est que le commissariat aux langues officielles des territoires du Nord-Ouest, c'est pas juste pour le français et l'anglais, c'est aussi pour les 9 langues autochtones qui sont reconnues comme officielles dans le territoire. Donc, ça fait partie du mandat du commissariat. Donc, qu'il y a eu seulement deux plaintes, c'est aussi surprenant. Selon la nouvelle commissaire, qui s'appelle Krista Karnogurski, la méconnaissance du mandat et le rôle du commissariat serait probablement à l'origine de ce faible nombre de plaintes. Les citoyens ignorent souvent le droit qu'ils ont de demander des services dans leur langue ou de déposer une plainte. L'Aquilon a parlé aussi à la directrice générale de la Fédération franco-ontarienne qui partage cet avis-là, mais qui ajoute aussi que la procédure pour faire une plainte est peut-être un peu compliquée parce qu'il faut encore télécharger un formulaire, l'imprimer, le remplir à la main et l'envoyer au commissariat.
Oui, par la poste ou par fax, j'imagine.
Exactement. Okay. Ou peut-être en personne aussi.
Ouais.
Le commissariat prévoit donc éduquer davantage la population sur le rôle et de lancer probablement elle-même quelques enquêtes sur des sujets très précis.
Et puis, on va terminer avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Lisa Leblanc, qui prend une pause des spectacles pour écrire et enregistrer son nouvel album. C'est ce que nous dit le Moniteur acadien.
Oui, qui a jasé avec l'autrice, compositrice, interprète, qui est originaire du coin de pays d'où publie le Moniteur acadien. Elle dit qu'elle va prendre une pause cet automne pour réfléchir et écrire sur un nouvel album. Elle a eu un début d'année assez chargé. Elle a passé 3 semaines au Japon pour l'exposition internationale d'Osaka, où elle a donné 8 spectacles en 10 jours. De retour en Amérique, elle est allée en Louisiane, où elle a fait à Lafayette, où elle a produit. Elle a présenté quelques spectacles aussi. Fait que d'ici la fin de l'année, elle va avoir 2 vitrines à Nashville. Mais elle prévoit se concentrer sur son prochain album. Elle ne sait pas encore si ça va être dans quel style ça va être, ni dans quelle langue, mais elle espère l'enregistrer en 2026. Donc, peut-être que d'ici un an, on aura quelque chose de nouveau de Lisa Leblanc.
Bien, Julien Caillouette, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Pour partir, entre nous c'est pas normal. On ne voit plus le printemps, on ne sent plus les fleurs. On ne fait que fixer le temps quand on a peur. Si on pouvait apprendre à danser la nuit et se laisser surprendre à rêver sous la pluie. Repartir.
fait que fixer le temps quand on a peur. Si on pouvait apprendre à danser la nuit et se laisser surprendre à rêver sous la pluie. Et pourquoi ne pas s'étendre et boire à la vie, de ne plus rien dépendre et danser la nuit.
C'était la chanson « Danser la nuit » de Marc Dupré.
On va peut-être pas danser, mais on va continuer en musique avec André Papathomas, qui est le créateur et directeur du projet, d'un projet musical unique intitulé « Les chants d'Asbiol ». C'est une œuvre qui est souvent décrite comme une messe païenne moderne, une expérience vocale hypnotique qui transporte le public au-delà du concert traditionnel. Est-ce que j'ai raison? Ou à peu près?
Ben, c'est la première fois que j'entends ça. C'est inspirant. Il faudrait que je médite là-dessus. c'est impressionnant, même, je dirais. Ouais. Mais oui, c'est une... c'est une commémoration, hein, sur ouais. Le centième anniversaire de naissance de Claude Gauvreau. Il y a peut-être quelque chose de solennel là-dedans. C'est
ouais. Alors, justement, ben, bienvenue à l'émission. Hein. J'ai lancé la question avant de vous souhaiter la bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est qui est l'inspiration, on l'a dit, Claude Gauvreau, mais qu'est-ce qui inspire cette œuvre?
Rapidement, je recule de 30 quelques années.
On a le droit.
J'ai lors de la création de la première chorale qu'un projet m'a amené à créer, c'est un projet sur l'œuvre d'Antonin Artaud, qui a écrit des phonèmes à la fin de sa vie. Langage inventé que lui appelait des glossolalies. Et cette œuvre, ce travail a accompagné vraiment ma création, si je puis dire, tout mon travail de composition pendant des décennies. Et je suis arrivé à Claude Gauvreau, qui, lui, a un langage inventé qui traverse l'entièreté de son œuvre poétique et théâtrale, ce qui est extrêmement impressionnant. Donc là, je me suis retrouvé habitué à ce type de travail, à côtoyer des phonèmes. Je me suis retrouvé face à une œuvre gigantesque, extrêmement profonde et très, très inspirante. Donc j'ai rencontré Gauvreau à travers Antonin Artaud.
Et vous avez mis 30 ans à préparer ça?
Non, pas 30, non. Mais 30 ans de travail, comme je disais, à côtoyer des langues inventées. C'est-à-dire, juste vite fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on compose de la musique pour chœur ou pour soliste, évidemment, on se bute en français à une complexité de contraintes, d'une grande somme de contraintes quant à la prononciation des mots lorsqu'ils sont chantés. Dans le chant populaire, c'est une chose beaucoup plus simple, mais dans le chant choral ou avec soliste, la donne change totalement. La langue française est très ingrate, en fait, à mettre en chant classique, en chant contemporain, en chant d'ensemble.
Et je ne vais pas vous mettre ça sur la sellette, mais j'essaie de comprendre. Donne-moi un exemple de qu'est-ce que ça peut amener comme contrainte.
Nos « in », nos « r », nos « en », vraiment la prononciation, j'aurais beaucoup, beaucoup plus de facilité en ce moment à vous donner des exemples de langage inventé que d'exemples de partie de phrase qui pourrait être très ingrate. Tiens, ceci est très ingrat à prononcer.
Ouais.
Essayez de chanter ça, là. Ceci est très ingrat. Les sifflantes qui se... Ceci est très ingrat à prononcer et à chanter d'autant plus.
Absolument, c'est ça. Oui, je comprends.
Si vous voulez, c'est très, très délicat. Et là-dessus, la langue française est très capricieuse. Donc, les phonèmes libèrent totalement de ça. Et un autre aspect, c'est le sens des mots. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans toutes sortes de contextes, parler d'amour, de politique, de vie intérieure ou de confort social. assez difficile donc de tourner des textes qui conviennent à la consonance nécessaire au chant tout en gardant, respectant un thème qu'on développe. Avec les phonèmes, on s'envole, c'est-à-dire c'est à l'auditeur de trouver un sens. Donc, on est libéré dans l'interprétation parce que chaque interprète a une interprétation des phonèmes qu'il chante. La rimoli à la miramilo astununt, la crassima trafalgar. Là, on entre dans quelque chose pour chacune, chacun. Chacun a son lieu à l'intérieur de ses consonances et l'auditeur aussi. Donc là, il se crée une magie, un rapport à une communication fascinante.
En quoi les musiques ou les arts traditionnels, les arts modernes, en quoi ça joue? Est-ce que ça joue et comment ça se retrouve dans cette œuvre?
C'est qu'un travail de composition.
OK.
De bout en bout.
Est-ce qu'il y a une influence peut-être?
Oui, il y a une influence, je dirais, c'est une musique... Ben, c'est très mélodieux, hein. Il y a beaucoup de mélodies. C'est très beau, en fait, très touchant. Il y a une facture, par contre, notoire de musique classique contemporaine, je dirais. Les deux solistes ont cette expérience. Ce sont mes références, d'ailleurs, apportées par Artaud et Gauvreau. C'est sûr qu'on entre dans des esthétismes qui sont très, très fins, très dentelés, qui peut nous éloigner de la musique populaire, en fait, mais nous amène vers des airs. J'aurais pas la prétention de dire vers de grands airs, mais vers une considération portée vraiment à la mélodie et à l'originalité des arrangements. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des arrangements musicaux, il y a beaucoup d'émotions d'insérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un type d'arrangement qu'on retrouverait justement dans la musique plus pop, plus rock, par exemple, ou funk ou autre, ou jazz. On n'est pas là, c'est ailleurs. On se situe comme les phonèmes, un peu au-delà, comme les phonèmes se situent au-delà de notre langue, de notre langage convenu, pour tenter d'exprimer autre chose autrement. En entrant dans des arrangements musicaux, dans les directions qu'on leur donne, on tend à soutenir ces autres façons d'exprimer. Mais la douceur est au rendez-vous, la mélodie tout de même.
Donc, on n'utilise pas vraiment la langue française, on utilise des phonèmes. Comment les personnes qui vont assister à ce concert vont comprendre?
Mon Dieu!
Excusez-moi de poser une question aussi
plate
que ça.
Elle est loin d'être plate. C'est peut-être la question la plus intéressante ou vraiment le point le plus intéressant à aborder. Premièrement, il y a à l'intérieur beaucoup de parties de phrases intelligibles, tout à fait.
D'accord. Okay.
Je peux vous donner un très bel exemple de mix, de rencontre entre phonèmes et langage convenu. Les stupreuses ont accolé au mur les dévennes de l'Eudia. Commissaire à tamoir, col qui flèche fardi à beucle brodelé, je te veux, enfant bleu, dont les cils ont des ciels, pour tenture. C'est un tout petit objet, mais on vient donc se dessuplat des plats vertes veines. T'sais, on s'élemit à chair de la puldroque qu'est au soive. C'est tellement beau, Lélé. Et on est dans notre langue. Et chacun, on comprend ça. Ouais. Si on laisse les mots cheminer en soi, ils vont trouver leur sens. Ils le trouvent en montant en soi. Et on aboutit à « Je te veux, enfant bleu, dont les cils ont des ciels pour tenture. » Et je pourrais vous donner... On pourrait partir pour... pour la matinée.
Et là, on n'a même pas eu la musique qui accompagne. On a juste
puis la musique est magnifique. Hein? Oui. D'ailleurs, on peut peut-être, si vous voulez, je ne sais pas vous décrire les instrumentifs, je ne sais pas, où on terminera avec, en tout cas, je vous laisse aller.
C'est parce que malheureusement, on n'a pas l'extrait qu'on aurait aimé jouer.
C'est dommage. Vraiment très, très beau.
Donc, c'est une création, c'est la première fois qu'on va le jouer. Ça se passe où, quand?
Ça se passe à l'église du Sacré-Cœur de Jésus, qui est sur la rue Ontario, entre les rues Plessis et Alexandre de Sèvres.
Oui.
Une église n'a pas d'adresse, en fait. Mais ça correspondrait au 1471 Est Ontario. Donc, ouais. Ontario entre Plessis et Alexandre de Sèvres. C'est dans l'église, ça va se passer dans le sanctuaire de l'église, en avant, pour réunir en fait tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre les mots.
Oui.
On est dans un lieu d'écho, hein. c'est délicat la chose. Là.
Mais
comme ça, on va y arriver.
Il y a toujours une espèce de
mots
de défi, oui.
Et donc, c'est samedi qui vient samedi le 23 août. Mm-hmm. Il y a deux représentations, une à 16h et l'autre à 19h30. Okay. Deux reprises, c'est contribution volontaire.
Contribution volontaire.
Oui, toujours à l'église. Tout ce que je fais là-bas, je travaille là beaucoup. Et toujours invite les gens donnent ce qu'ils veulent. C'est ça. Donc, 16h, 19h30, 23 août. À l'église du Sacré-Cœur.
Puis il y a des projets de jouer ailleurs au Québec ou au Canada?
On l'a fait déjà. On a joué à Paris, on a fait une tournée dans les maisons de la culture, mais ça date un petit peu. Oui, là, on l'a repris vraiment. Et là, on est beaucoup. Hein, là. Il y a deux organistes, un orgue inventé qui est absolument merveilleux, qui va être au cœur, ben, dans le sanctuaire, le grand orgue de l'église, violoncelle, hautbois, deux solistes, percussions. Moi qui fais les textes, les solistes aussi, quelques-uns, et basse électrique. Donc, c'est vraiment, on est huit, c'est une petite orchestration, là. Et l'écho aussi, qui vraiment fait partie, qui est un instrumentiste en soi, qui s'invite lui-même sans jamais.
Des fois, ça peut aider, puis des fois, ça peut aider.
Ça peut être merveilleux. Non, il faut travailler avec, hein,
ouais,
ça. Oui,
faut ça.
Il est là.
André, Papa Thomas, c'était vraiment, vraiment génial. J'ai vraiment aimé ça de vous entendre et surtout entendre votre voix exprimer certaines de ces paroles. Donc, à voir ce samedi. Ouais. Et d'autres projets, on a le temps encore, une petite minute, d'autres projets qui s'annoncent pour vous?
Là, je suis en train de faire la mise en scène d'un opéra de Pékin. Je suis complètement dans un autre univers.
Un autre
et
registre,
je prépare,
oui.
Ça, c'est vraiment intéressant, merci. La prochaine saison du Grand Chœur du Centre-Sud, qui chante dans cette église Ontario-Plessis, là, à tous les dimanches, on commence à mi-septembre. Et c'est un sacré beau projet qui réunit des gens du quartier qui deviennent pas mal bon. Et c'est vraiment très, très créatif. On utilise les cloches aménagées dans l'église, l'orgue, etc. Le Grand Chœur du Centre-Sud, je suis vraiment heureux de pouvoir les nommer, ces gens. Et aussi, on recrute toujours. Hein, donc, on commence le 14 septembre à l'église du Sacré-Cœur et à 16h30, on chante sur le parvis, ce que ça peut intéresser. 14 septembre, 16h30, sur le parvis de l'église Ontario-Plessis. Et là, on recrute. Fait que, en tout cas, c'est un rendez-vous.
Rendez-vous. Ça. Merci beaucoup, André Papa Thomas. Ben voilà, nous, on arrive à la fin de cette émission aujourd'hui. Je vous rappelle donc la météo. C'est un peu compliqué aujourd'hui, mais il y a toujours un bulletin de cyclones tropicaux. Je n'aime pas comment ce que c'est dit, mais sur Terre-Neuve. Alors, faites attention, il y a peut-être des avis là, de grands vents qui s'en viennent. Et puis, il y a du smog. Il y a du smog aussi, donc, à Terre-Neuve. Avertissement de chaleur en Saskatchewan. Puis nous autres, ben, ça reste quand même viable avec des températures dans les mi-20 ou mi-vingtaine. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je serai de retour demain pour cette émission encore. Et merci, Samuel Badel, à la régie. À demain!